Alors, on va voir un petit peu ce sujet-là. C'est bien qu'on a eu quelques minutes pour voir de quoi on parle. Mais bah, c'est comment on gère quand il y a deux approches. Alors pour ça, il faut d'abord réaliser que c'est normal qu'il y ait deux approches. C'est normal que si on parle, par exemple, de savoir comment... Est-ce qu'on donne des friandises aux enfants ? Vous n'êtes pas pour les friandises.
D'accord. Et elle est pour les friandises.
Mais elle,
non.
Elle est pour.
Non, elle non plus.
Non, votre épouse, non, mais...
Admettons,
vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un soit pour les friandises, c'est ça ?
Non, non, mais...
D'accord, vous êtes conscient
je suis conscient surtout.
J'étais hier soir dans M. Dachlichit, il y avait un paquet comme ça de bonbons. Et quand les enfants y chantaient joliment, on leur donnait deux bonbons. Alors, j'ai demandé s'il y avait des dentistes quoi, qui étaient concernés. Là-bas, il y avait quelques dentistes à côté de moi, donc c'était avantageux pour eux. Mais sinon, les parents, c'est vrai qu'ils souvent, bonsoir, ils n'aiment pas trop ça. Mais souvent, encore plus souvent peut-être, il y a un désaccord sur ce point-là. Le père, il dit, allez, on est large, les friandises, on fait kiffer les enfants, les glaces et tout. Et la mère qui dit, mais faut que le petit mange le repas, faut pas les friandises, puis ça abîme les dents, et puis après, il va pas manger des choses saines, etc. Très, très fréquent. Et souvent, c'est le mari qui est pour un peu lâcher bride et laxiste. Et bon, on connaît tous ça. En général, c'est comme ça. Non, Rabbi Eli ? Voilà, en général, c'est comme ça. C'est la nature de l'homme, la nature de la femme. Et la Gemara, elle appelle ça un petit peu, hein, ça ressemble. La Gemara, elle dit que la femme est née à Tsara Beochim. La femme, elle est un peu plus, pas étroite. Tsara, c'est étroite, mais ça veut dire un peu plus radine, plus avare par rapport aux invités. Quand il y a des invités, la Gemara dit que c'est vrai qu'Avraham, il a besoin d'appuyer à Sarah, de donner avec largesse, de la bonne farine et tout. Parce que naturellement, même Sarah, mais nous, comme c'est une femme, elle est un peu moins large que l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est tous les hommes et toutes les femmes comme ça, mais... Mais Beder Klal, je pense que souvent, je pense que vous comprenez de quoi je parle, c'est souvent comme ça. Le mari, il est un peu laxiste, etc., sur les détails. Il ne réfléchit pas non plus trop aux détails. Ça veut dire que l'heure du coucher, c'est la même chose. Le mari dit, bon, allez, encore une histoire, encore un petit jeu. Bon, c'est pas grave, alors... etc., pour la douche, pour tout ça. Et la femme qui dit, mais il faut... Donc, ce sont des situations fréquentes. Donc, même si ça ne vous concerne pas pour les friandises, mais... Mais la question en soi, elle, comment ?
Pour autre chose.
Pour autre chose, voilà. Mais ça nous concerne tous, cette question. La question, c'est comment on gère ? Alors, on peut dire comment on gère le désaccord, on peut dire comment on gère le conflit. Je crois que c'est en fait deux étapes. Il y a l'étape du désaccord et l'étape du conflit. Si on gère mal le désaccord, ben ça arrive à un conflit. Alors, si on considère un désaccord comme un conflit, il n'y a pas de place à deux approches. Là, on va arriver au conflit, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Je ne sais pas s'il le veut, Dieu, mais ouais, il a fait les choses comme ça. Que si on considère les choses comme des conflits, ben, ils arrivent, Bezrat Hashem. Bon, donc c'est important de réaliser d'abord qu'on a le droit d'avoir deux approches. On a le droit d'avoir deux approches parce qu'on a le droit d'avoir deux natures. Le shalom, ça ne veut pas dire qu'on est identique. Là, on avait parlé il y a deux semaines par rapport au Stam, l'homme et la femme. Là, je parle plus par rapport à l'approche, par rapport aux enfants. Vous avez décidé plus... concrètement par rapport
par rapport à la famille,
la famille par exemple, est-ce qu'on va à tous les smachot de la famille, on passe un Shabbat Ratan etc. là-bas pour faire plaisir à la grand-mère, ou alors on est tranquillement en famille, on se casse pas la tête à aller à l'hôtel et sur 12 mètres carrés etc. n'est-ce pas, c'est un exemple aussi. La femme elle dit par exemple il faut absolument aller au Shabbat Ratan de ma cousine, le mari va tranquillement son petit minyan, son petit lit, son petit truc, voilà, il a ses habitudes. Et inversement, la femme, elle supporte pas parce qu'elle qui doit gérer les enfants, savoir comment on fait. Là-bas, ils vont, et ça va être le il y aura pas un repas normal pour les enfants, il y aura toutes sortes de trucs. Et le mari qui dit, moi, je veux aller, c'est important, ça va froisser un tel ou je ne sais quoi. Bon, c'est un exemple. D'accord. Ça peut être pour le travail, combien de temps sacrifier de la famille pour être au travail. Ou alors, au contraire, savoir être plus présent à la maison, par exemple. Le mari, il n'a pas d'heure, etc. La femme, elle veut qu'il... Là, c'est déjà un peu plus délicat, parce que là, ça touche encore des sujets. Le dernier exemple, donc on va rester sur les exemples comme une question vraiment presque technique. Quelle doit être l'approche pour les friandises, pour le repas de midi, etc. Pour inviter des amis, si une enfant elle veut inviter une copine le dimanche et... Le père, il pense que oui, pourquoi pas, et la mère, ça la fatigue, elle pense que c'est pas bon, etc. Il faut. Je sais pas, hein, c'est des choses qui. Chacun. La question, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir la même approche ? Alors, je pense qu'au début, souvent, on croit qu'on doit avoir la même approche. Non ? Quand on se marie, je crois que on pense naturellement. Dites-moi ce que vous pensez, je propose. On croit naturellement l'homme et la femme comme ils s'aiment bien et tout. Au début, ils n'ont pas remarqué qu'ils avaient des approches différentes dans la vie. Ils pensaient qu'on avait que 20 ans ou 30 ans. Chacun dans une autre famille, d'une autre origine, d'une autre culture, des fois pas le même niveau ni de religiosité, ni de cadre aussi familial. C'est-à-dire qu'il y a une approche, peut-être il y a eu des parents très durs, d'autres parents qui étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus larges ou plus ou moins équilibrés, mais qu'il y a naturellement des approches différentes. Mais au début, on ne remarque pas. On raconte qu'une fois, il y avait un rave, un mari ou une femme qui vient, là, j'ai remarqué un désaccord entre nous. Ah, vous commencez à être mariés. Quand maintenant tout était beau, etc. Toi, tu appelais ça quand les enfants y grandissent. Mais c'est un exemple. C'est un exemple quand les enfants y grandissent. Bonsoir. Ça. C'est un exemple. Mais bonsoir. On parle un petit peu comment régler s'il y a un désaccord.
C'était ouvert.
Ouais, c'était ouvert. Voir un conflit entre le couple. Alors, il a choisi Rabbeinu, par exemple, par rapport à savoir comment gérer une situation familiale, éducative, pédagogique, etc. Par exemple, si la maman, elle est pour un peu exiger des enfants une certaine tenue, et le père, il est plus laxiste par rapport aux friandises, par rapport au pain de midi, par rapport à comment se vêtir pour Shabbat, par rapport à l'heure du coucher, l'heure de se lever, etc. Comment gérer ce genre de choses? Bon. Quelqu'un prononçait le mot désaccord, un autre le mot conflit. On a vu qu'en fait c'était une spirale souvent. Si on ne traitait pas quand c'était encore au niveau du désaccord, ça allait devenir un conflit. Maintenant, ce qu'on voyait ensemble, c'est qu'en fait, pour éviter le conflit, rester dans le désaccord, après on va un peu affiner le mot désaccord, il faut d'abord accepter qu'il y ait deux approches différentes. Parce qu'il y a deux natures différentes. Ça, c'est une chose évidente, mais ça prend du temps. Parfois chez l'homme ça prend du temps, parfois chez la femme. Parfois non, mais ça peut prendre du temps pour la femme d'accepter par exemple qu'il y ait une autre approche que la sienne. Elle pense que ça doit être comme ça, donc c'est comme ça. Ça peut être pour le mari. Alors parfois c'est parce que le mari il n'est pas dans la réalité des faits. Dans la réalité il ne sait pas ce que ça veut dire s'occuper, être responsable, mettre un enfant au lit, voilà. Donc dire ouais, eh bien, faut être dans la douceur et tout, ouais, mais mets-le au lit une semaine, une semaine déjà.
Un jour.
Deux, trois jours consécutifs, mettre l'enfant au lit à une certaine heure et que le lendemain il puisse se lever parce qu'il n'a pas dormi à 10 heures du soir quand il a 7 ans, etc. Et après on parlera. Ce que la femme elle ressent. Donc la femme elle sent que le mari il n'est pas dans la réalité. Et le mari il est dans son monde et dans son approche, tout est beau, etc. Et il pense que. Donc le mari d'un côté, bah, il veut imposer, mais il y a une approche qui prévaut pour lui, mais qui n'est pas trop dans la réalité. Et la femme, comme elle est dans la réalité, elle voit le problème. Des fois, elle est un peu dure. Elle dit ça doit être comme ça et pas autrement. Mais le mari, il attend d'abord de recevoir son kavod et de savoir que c'est lui qui dirige. Et c'est vrai. C'est comme ça, naturellement. D'après l'approche de la Torah, c'est comme ça. Et l'approche profonde de l'homme et la femme, c'est comme ça. Le mari dirige, mais à condition d'être à l'écoute de sa femme et de voir l'enjeu sur le terrain. Comment ?
C'est valable aussi dans le cas inverse. C'est l'approche théorique, pratique.
Ouais, souvent c'est comme ça. Souvent le mari c'est la théorie et la femme c'est la pratique, mais ça peut être par comment? Vous pensez l'inverse?
Ça dépend
des gens.
Aussi l'inverse. Ça dépend dans quel domaine. Ça va être l'inverse.
Ouais. C'est-à-dire?
Ça dépend dans quel domaine.
Quand ça donne sur le bruit d'une chose par exemple.
Ouais, ça peut arriver.
Pas seulement pour toi. Pour vous, quand c'est des travaux, c'est.
Non, ça peut arriver aussi, vous avez raison. Si par exemple la femme a dit il faut refaire la salle de bain, il faut refaire la cuisine, et que le mari dit mais oui, mais comment on fait techniquement? Et en même temps, tu veux que je sois à l'heure à la maison, mais si je rajoute pas encore des rendez-vous, encore des consultations, etc., on pourra pas faire telle salle de bain. Ça peut être dans tout. Dans tout, il peut y avoir cette question, la théorie ou la pratique. Là, on avait parlé plus des enfants. Souvent, dans les questions des enfants, c'est souvent la femme qui est plus sur le terrain. Souvent, pas forcément. Et donc, elle dit, oui, mais techniquement, qui va s'occuper des dents des enfants, qui va s'occuper de l'heure du coucher, qui va s'occuper... Comment? Quand ils sont malades, etc. Et le mari, il lance comme ça des théories. Bon. Donc il faut d'abord accepter le fait qu'il y ait la place pour les deux regards, comme un peu le Malach Gabriel et le Malach Michael. Malach Michael, c'est Midat HaChesed, Yamin. Gabriel, c'est la Gvura, c'est le Din. Midat HaDin, Avraham et Yitzhak. Et Oseh Shalom Bimromav, celui qui fait le Shalom Bimromav au ciel entre Malach Michael et Malach Gabriel pour arriver dans l'harmonie, où il y a Oseh Shalom Aleinu. Le Shalom, là, en l'occurrence, on parle du Shalom Bayit, il faut un Shalom sur nous. Donc pour... Là, si on a choisi, par exemple, de parler de la rigueur de l'homme ou de la femme face à la douceur ou le laxisme, ça peut être du laxisme, ça peut être de la douceur. Il y a une belle histoire. Il y a une fois un bonhomme qui il était un peu mou de nature, un peu mou comme ça. Il était gentil, mais mou. Et la femme, elle ne supportait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle craque, il avait plusieurs enfants, et jamais il se levait à l'heure pour aller au travail, pour aller à Tfila, pour étudier, pour truc. Et ils ont divorcé. Et il s'est remarié avec quelqu'un. Elle est restée seule et tout, et lui s'est remarié avec quelqu'un qui savait l'encourager, qui savait le motiver, etc. Et c'est devenu quelqu'un de très bien. Et toute la douceur qu'il avait, la bonté qu'il avait, côté un peu nonchalant, sa femme, elle a su les lever pour montrer aux enfants comment papa il était bon et gentil. Et le côté un peu trop nonchalant, un peu mou en fait, elle a su ne pas le pointer du doigt comme la première femme qui était très dure avec lui. Et après, cette femme a été déchirée, la pauvre, la première, quand elle a vu ce que la deuxième avait su faire, avoir une belle famille. Donc, c'était un cas un peu extrême d'un côté, mitzvah de la femme, la dureté de la femme, mitzvah de l'homme qui était un peu trop mou. Mais on peut faire avec ça de belles choses. Même s'il y a une carence de la part de l'homme ou de la femme, au niveau psychologique, etc., ou au niveau stable, du vécu. Peut-être qu'elle a vécu la femme ou bien l'homme chez des parents très durs, par exemple. Donc, naturellement, c'est une personne très dure. Ou inversement, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu de règles à la maison, etc., donc qui fait un peu n'importe quoi. Mais malgré tout, c'est la nature de l'homme, c'est la nature de la femme. Il faut d'abord accepter le fait que chacun a sa nature et qu'il y a de la place pour cette approche et pour cette nature. C'est souvent une approche qui découle d'une nature et d'un vécu. Donc il y a de la place pour ça. Pour l'instant, c'est mon mari, pour l'instant, c'est ma femme. D'abord, accepter ça. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Une fois que la femme, elle dit au mari, d'accord, je veux comprendre ton point de vue et je suis prêt à l'appliquer, mais aide-moi à l'appliquer à la maison. Et le mari dit à sa femme, c'est vrai que j'ai une approche, mais en fait, je ne sais pas vraiment comment techniquement le faire. Dis-moi comment ça se passe, on va essayer de réfléchir ensemble. Là, on peut commencer à travailler. Dans une société, c'est comme ça. Dans une société, si le président, ou etc., il n'a pas de confiance envers ses employés, envers ses cadres, pour leur demander un peu ce qu'ils pensent, ils sont frustrés, un jour, ils claquent la porte. Même si je donne une bonne parnassa.
Les associés.
Comment ? Les associés. Les associés, c'est... Alors, soit on travaille bien ensemble, soit après ça explose.
Il ne peut pas claquer la porte.
Comment ?
Il
ne peut pas claquer la porte. Il ne peut pas claquer la porte, mais parfois, il y a des associations qui se dissout. Et parfois, il y a des couples qui divorcent. Mais ça vient d'un désaccord qui s'est transformé en conflit, puis en guerre, etc. Une spirale. On veut éviter cette spirale-là, mais pour éviter la spirale, il faut d'abord... Il ne faut pas regarder le problème quand il a explosé. Il faut essayer de réfléchir à la source, d'où ça vient. Cette question, est-ce qu'on accepte les deux approches ? Une fois qu'on a accepté les deux approches, la question, c'est comment on fait passer ce message-là ? Comment on fait passer ce message que... D'accord, j'accepte. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ? C'est évident, mais il faut être d'accord, réaliser...
Non, mais pas simple.
Voilà, c'est pas simple à vivre.
Mais
il faut accepter.
Le recul.
Ouais, avoir le recul. Mais discerner aussi. Discerner que ce qui nous bloque, c'est le fait que notre épouse, parfois, n'est pas d'accord d'accepter que notre point de vue aussi est important.
Que nous, on n'est pas d'accord.
Mais déjà, juste le mettre sur la table.
Ouais.
Déjà, juste le mettre sur la table.
Le mettre sur la table. Mais en réalité, souvent, ça surgit. Mais d'une façon qui n'est pas trop gérée. Et donc, après, c'est plus gérable. Mais si on choisit de le mettre sur la table, ouvertement, et de voir, voilà, je vois qu'en fait, il y a une chose qui se répète. Naturellement, je suis habitué à avoir d'un point de vue, toi, tu vois différemment. Est-ce qu'on a le droit, les deux, d'avoir un avis sur le sujet ? D'abord, ça, c'est important de pouvoir mettre les choses sur la table. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si on veut, admettons qu'on veuille malgré tout que notre avis prévaut. Admettons. Je ne vais pas rentrer maintenant dans la question si on a raison de penser comme ça. Mais qu'on le veuille ou non, c'est très important d'abord de montrer à l'autre personne, en l'occurrence dans le couple, à sa femme, qu'on a de l'estime pour son point de vue. Parce qu'on ne peut pas... Admettons, je vais faire une petite parenthèse, je vais faire un reproche à un élève. Je viens, je lui dis ça, c'était mauvais. Fais pas comme ça. Fais pas comme ça. On trouve d'abord comment le valoriser, le rehausser un petit peu, et après, il est capable d'entendre. Mais si on vient... Aujourd'hui, quelqu'un m'a fait une tohara au téléphone. Donc, c'est une tohara que je voulais. Ça veut dire c'est une tohara constructive. Mais il a dit un peu sèchement.
Virulente.
Comment ?
De manière virulente.
Pas virulent, mais un peu sèche comme ça, voilà. C'était pas très agréable pour moi d'accepter. J'ai accepté ce qu'il a dit. Et je voulais entendre. Mais il faut y aller mollo des fois. Voilà. C'est-à-dire doucement. C'était pas quelque chose de grave. C'était pour apporter quelque chose. Mais c'est important d'enrober les choses. Et quand on va avec quelqu'un de sensible, on va toujours avec des... Même si on a... une main de fer, mais il faut l'entourer d'un gant de velours. On ne peut pas comme ça venir et taper du poing sur la table, ça ne marche pas. Tu sais qu'il y a des gens délicats en face de toi, tu fais attention. Alors qu'Alvar Homer, son épouse, parce que la Gemara, elle dit, dur que l'homme il fasse attention, be ona tishto. Qu'est-ce que c'est ona tishto ? Qu'est-ce que c'est le sur de ona ? Voilà, blessé. C'est écrit dans la Torah, l'otonu chez Tachiv, l'otonu chez Tamito, dans Barachat Behar. L'un veut dire ne pas léser l'autre dans le commerce, l'autre veut dire ne pas vexer l'autre. C'est un lave de la Torah de vexer l'autre. Donc c'est autrui. Et la Gemara dit, dans ma médecine, faire particulièrement attention à ne pas blesser sa femme. Pourquoi chez Dima Ata Metsuya ? Parce que ses larmes sont fréquentes. C'est facile de la faire pleurer. Alors, malheureusement, parfois elle ne pleure pas. À chaud de larmes. Et là, c'est pire, mais elle pleure à l'intérieur. Parce que si elle pleure à l'extérieur, on voit ça, ça freine la personne, ça freine le mari. Mais si elle pleure pas à l'extérieur, elle pleure qu'à l'intérieur, elle s'écarte de son mari.
Ouais.
Comment ?
On voit rien.
On voit rien, mais il faut voir. Alors, continue.
Et après, on le sent quand même.
On le ressent, bien sûr qu'on le ressent, mais il faut de la finesse pour ça. Il faut être, allez, faut être attentif, faut être attentionné, bien sûr qu'on le ressent.
On le ressent et on ne veut pas le sentir.
Comment ?
Des fois, on le ressent, mais on ne veut pas le voir.
On ne veut pas le voir. Des fois, ça ne nous arrange pas. Des fois, on n'a pas le temps de voir. On n'a pas le temps de voir, donc on a vu, on a remarqué qu'on a blessé, mais on n'a pas le temps de voir. Donc, tant que la femme ne met pas sur la table le problème, bah, on avance. On fonce dans le travail, on fonce dans autre chose et on préfère avancer. On court à Mincha, etc. Mais en fait, on n'a pas réglé le problème. On s'enfuit. Les maris qui s'enfuient de la maison, c'est quoi ? Ils s'enfuient ? C'est-à-dire qu'ils se mettent à fond dans le travail, se font même dans le limoud, les avdils. Ils se mettent à fond dans le limoud et pour éviter de vraiment faire avancer les choses et être conscient. Mais en tout cas, donc, c'est-à-dire que vexer sa femme, c'est délicat. D'après la Torah, c'est délicat. Il s'agit d'un issour de la Torah, en fait, de blesser. Elle n'a pas la capacité. Et alors, donc,
dans ce cas-là, d'après vous, ça vaudrait plus le coup de bloquer tout, stopper et régler le sujet ?
J'ai pas compris.
J'ai pas fait exprès, j'ai blessé ma femme. Maintenant j'ai une tonne d'affaires, rendez-vous, Mincha, la tfila, le limout, tout qui vient empiler.
Alors je sais.
Si sur une balance j'ai
Qu'est-ce que vous pensez ?
Ce poids-là,
si j'ai
tout et on...
Alors moi je dis comme ça.
Faut pas résoudre à chaud. Faut des
alors il y a beaucoup. Je veux pas donner maintenant un conseil technique, mais juste au niveau de l'approche. Pas comment faire techniquement. Parce que techniquement, si chaque fois qu'il y a une saute d'humeur, on arrête tout, pas avancer. Ça va habituer. Mais il faut réaliser ce qu'on a vu dans cette paracha. La paracha de cette semaine, c'est écrit que Kadosh-Bohru, il efface son nom pour le Shalom Bayit. Pour le Shalom Bayit, ça ne veut pas dire seulement pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait la guerre à la maison. Mais s'il y a un sentiment difficile et qu'on va dormir avec ce sentiment difficile, c'est une tragédie. L'idéal, c'est au moins ne pas aller dormir avec quelque chose sur le cœur, l'homme ou la femme. Alors, on ne peut pas toujours tout arrêter. C'est sûr qu'il y a des priorités, c'est sûr que Shalom Bayit, ça passe avant Mincha, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'arrêter Mincha pour ça, parce qu'en ce cas-là, on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Et si c'est un rendez-vous urgent, et si on est en avion, etc.
Donc, mais des fois, ça peut la mettre encore plus en difficulté. Ça peut plus...
De quoi ?
Attendre, c'est pas
du temps. De laisser passer, bien sûr. Moi, s'il faut, on rate Mincha. On rate Mincha Betzibour. On fait Béachid. Bien sûr, s'il faut, on le fait. Seulement, je ne veux pas donner une solution technique parce que c'est à chacun de faire avec sa jugeote, son intelligence. On ne peut pas toujours arrêter tout. Ce n'est pas toujours la solution. Et comme il dit, des fois, Rabbi Eli, des fois, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais de réaliser, oui, j'ai fait une erreur. J'en suis conscient. J'ai mal au cœur. Il faut qu'on en parle, etc. Là, je suis très pressé, malheureusement. Mais dès que je reviens, je coupe le téléphone et on fait ça. Ça a plus d'influence que par laquelle maintenant. Et en fait, on pense à Mincha, on pense à rendez-vous. Voilà, on a remarqué notre erreur et on veut en parler.
Et on adresse.
C'est un exemple. C'est un exemple. Le but, c'est pas donner des solutions techniques. C'est l'approche. C'est sûr que l'approche de Shalom Bayit, si on a vexé sa femme, la rassurer, la rasséréner, c'est plus important que Mincha. Ça, c'est sûr. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même, même s'il y a des choses qui sont plus importantes, mais il y a des choses des fois plus urgentes, même si elles sont moins importantes. Donc on est obligé, il y a une hiérarchie au niveau de l'importance, il y a une hiérarchie au niveau du temps. Ça veut dire, je dois amener mon enfant à l'école à l'heure. C'est pas très important. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, et malgré tout, je le fais. Si chaque fois que je peux pas, il y a des. Non, sinon, il n'y a plus de cadre. Voilà. C'est-à-dire, c'est une priorité au niveau technique.
La femme se vexe vite, hein.
Comment ?
La femme, elle s'est extrêmement
vite. Oui, mais alors, vous savez quoi ? Il faut pour ça beaucoup, 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 en fait. Quand le verre, il est plein, alors après, bon, même si on enlève, regardez, allez, une seconde. Si le verre, il est plein, j'ai rempli la bouteille, j'ai rempli le verre. Après, je viens, je prends un petit peu, 10 centilitres de jus de raisin, de vin, je bois. Je bois encore 5 centilitres. Combien il reste ? Il y avait 75 centilitres, j'ai bu 15 centilitres. Combien il reste ?
60.
Si j'avais 0,5 centilitres et j'ai bu 15 centilitres, est-ce que c'est possible ? Impossible, n'est-ce pas ? Ça marche pas. En mathématiques, ça passe pas. Si la femme, elle est à sec d'attention, de bien-être de la part de son mari, alors c'est compliqué. Une toute petite remarque va la blesser. C'est comme une plaie qui est déjà ouverte ou presque. C'est très sensible. Chaque petite chose, ça fait du sang, ça fait blesser. Mais si, Baruch HaShem, tu as mis beaucoup de crème et la peau, elle est bien enrichie, après, tu fais une petite entaille, ça va, c'est une petite douleur d'un instant et ça. Ça rebondit. La personne est capable de rebondir. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Je sens bien.
Ce que tu es en train de dire, c'est de la faute de l'homme alors.
Tout est la faute de l'homme.
Pourquoi c'est un ridouche que je dis.
Non. Alors moi, je parle de mon cas moi. Ouais. C'est... Mais là, pour moi, c'est pas vrai.
D'accord, vas-y.
La femme, pour moi, elle s'exite.
Oui, mais bien sûr. Ce que tu as dit, le secret de la Gemara. La Gemara, elle dit Lola, misère, Adam, Bonat, Ishto. J'ai dit Matam, il faut faire attention de ne pas vexer sa femme parce que son pleur est facile. Donc la Gemara, elle dit ce que tu dis. La Gemara, elle dit que la femme, elle est sensible. Attends, en Hachem, on se marie avec une femme, on se marie avec un homme. On veut savoir comment gérer ça. On veut savoir comment. Bon, malheureusement. Malheureusement. On ne parle pas des animaux, on parle des hommes. Donc, les, en tout cas, ou les malades mentaux, je ne sais pas, on va peut-être qu'ils sont malades, mais. Mais c'est ta maman, en tout cas.
Tout ça, ouais.
En tout cas, on revient. Les maassés, elle est sensible. La question, c'est comment ça rebondit. Quelqu'un est très occupé. Aujourd'hui, j'étais très occupé, beaucoup de téléphones, etc., de choses. Et donc, c'est. Comme ma femme, Baruch HaShem, elle reçoit de son mari. Donc, quand je lui explique que là, j'ai des préoccupations, enfin, pas des préoccupations, mais des choses que je dois gérer, c'est. Ça vient sur un terrain sevré. Il n'y a pas de manque. Quand il n'y a pas de manque affectif, Baruch HaShem, alors après. Bon, alors il y a des choses à régler, il y a des impératifs, elle mal à saute. Mais si malheureusement, la femme, elle est complètement desséchée. Alors, si on ne lui donne pas toute l'attention, elle a besoin beaucoup plus. En fait, c'est un puits sans fond. Quand on ne donne pas en son temps, en son heure, l'attention que la femme elle a besoin, c'est un puits sans fond. Ça ne s'arrête pas. Et on se dit, mais c'est impossible de gérer ça. Non ?
Et la grande difficulté qui peut se produire, c'est que si la femme est desséchée,
ouais.
Ça crée un fossé avec le mari. Mais le mari, de l'autre côté, lui aussi, il est en souffrance parce qu'il ne reçoit plus rien de sa femme. Et avec le temps, on peut arriver à des catastrophes.
À deux vies différentes, même s'il n'y a pas de divorce. C'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Il y a des fois des gens qui vivent ou dans deux chambres différentes ou tout comme. Ça revient au même. Donc on veut éviter ces choses-là. Donc je disais, je ne veux pas moi t'en parler, ma mâche de ça. Je vais juste revenir à ce qu'on a dit. Donc il y a deux approches différentes. D'accord, il y a deux approches différentes. Si on accepte qu'il y a deux approches, après la question c'est comment on fait passer le message. Si on s'habitue à enrober nos messages, à commencer par des compliments, c'est pas Khadesh Shalom faire de la scène, faire du cinéma, ça sert à rien. Mais s'habituer sa nature à parler de façon plus douce, plus délicate, pas de but en blanc comme ça, faire des remarques, etc. On a une réprimande à faire, admettons, un reproche à faire. Comment on le fait le reproche ?
En mettant du bien dessus.
On le fait pas le reproche.
On le fait pas.
Du tout.
On a besoin de faire.
J'implose.
Ah oui, j'implose. Alors voilà, donc c'est pas la solution. Mais le mot reproche par rapport à sa femme, déjà, c'est un mot qui est pas à sa place. On reproche pas à sa femme. C'est pas notre enfant, c'est pas un élève. On reproche pas. On suggère. Mais on veut faire avancer les choses. On veut mettre les choses sur la table. C'est pas la solution d'imploser après exploser. C'est pas la solution. Ou imploser, s'écarter, se séparer. Mais ça dépend énormément de combien il y a d'affection, d'attention, de paroles douces. S'il y a beaucoup de paroles douces.
Ça dépend du sujet.
Ouais.
C'est peut-être un cas où on veut améliorer les choses. Et dans ouais. ce sens-là, si c'est amélioré, c'est, on parlait d'éducation tout à l'heure des enfants. Ouais. C'est une suggestion. Mais ça peut être aussi on est blessé. Et à un moment donné, il faut lui dire comme qu'on est blessé.
Bien sûr. Il faut parler de son sentiment. Voilà. Alors, je dévie un petit peu d'après votre question. Comme ça, je facilite un peu la question de comment communiquer ce genre de truc. Par exemple, je suis blessé de quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais ?
De ma femme ou
de ma femme. Le comportement de ma femme. Je suis arrivé le soir, elle ne m'a pas préparé à manger. Et je suis habitué. Je ne parle pas de moi. Quelqu'un qui est habitué, il faut que quand il arrive à la maison, ce soit prêt le repas. Il y a des gens comme ça qui pensent. Alors, ils pensent comme ça, le bonhomme. Et sa femme, elle continue sa conversation avec sa copine au téléphone, par exemple. Comment il gère ça ? Est-ce qu'il n'en parle pas ?
Il n'en parle pas.
Il n'en parle pas.
Un jour, tu vas exploser.
Non, mais un jour, tu
parce qu'il y a des choses à lui reprocher.
Non, mais pour manger, tu veux. Il donne un exemple.
Il rentre à la maison.
Avec ses devant tes copains, tu vois.
C'est... Non, mais une seconde. L'athlète. Je donne des petits exemples. Parfois, ils sont difficiles à digérer. Parfois, il n'y a rien à manger. Mais, donc, je vais prendre un exemple plus simple.
Elle a fait les courses. Et attendez que je fasse les courses, elle n'a pas fait à manger.
Voilà.
C'est pas de ma faute.
Bon. Alors là, on rentre déjà dans une spirale. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, moi, je fais mon rôle. Si je l'ai pas fait, moi, je m'excuse. Ma femme, elle fait son rôle. Si elle le fait pas, c'est parce qu'elle est fatiguée. C'est pas parce qu'elle me réplique sur ce que je fais normalement. C'est une bonne approche. Ce genre de cas, il est. Bonsoir. C'est pas censé. Un médecin, il a toujours des excuses.
Ouais, non, en fait, c'est très bon.
Non, mais on peut pas savoir avec un médecin.
C'est un truc de ouf. Je devais tremper un truc dans mes IV, il est tombé dans mes IV, j'ai dû me tomber. Ouais.
Ah, c'est pas parce que vous êtes médecin, alors ça, c'est ça. Je
devais tremper mon truc, il est tombé
avec
dans
la chaleur, tu t'es vaincu.
Mais non, il est tombé dans le fond du IV. Donc je me suis trompé, j'avais pas la serviette, rien, je suis parti avec.
L'eau était bonne. Il y avait trop de chlore ou.
Mais non, j'ai dû me mettre. J'étais là-bas. Il n'est pas fait tomber.
C'est quoi qui est tombé ? Parce que des fois, on peut laisser au fond.
Non, c'est le couvert, je ne pouvais pas laisser tomber mon fond.
C'est un couvert. Il rentre chez lui, sa femme.
Mais je suis trempé.
Bon, Baruch HaShem. Alors, pour Rabbeinu, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu.
Ouais, parce que je ne suis pas fait exprès.
Alors.
Pour le coup, c'est quoi ?
Je nous avais
excès. Alors. Du coup, il est bien. Non, c'est bien comme ça, on peut un peu récapituler. Donc, on a parlé de comment gérer quand il y a un petit conflit, un petit désaccord au niveau, par exemple, de l'approche éducative, par exemple. Comment gérer ça pour ne pas que ça devienne d'un désaccord à un conflit etc. Donc on a dit qu'il faut d'abord accepter qu'il y a deux approches différentes, deux natures différentes. Il y a de la place. Ça va ? Tout va bien ?
Tout va bien.
Un verre d'eau ?
Non, ça va, je veux plus d'eau.
D'accord. Je parle pour boire, pas pour...
Ah, pour vous, c'est
d'accord. Non. Bref, comment voir qu'il y a, il y a deux approches différentes ? Accepter la différenciation de nature, etc., de culture. Et ensuite, comment maintenant, une fois qu'on a compris, on a mis sur la table le fait qu'il y a deux approches différentes, qui découlent d'une éducation, qui découlent maintenant aussi de quelle confrontation on a à la réalité, qui doit s'occuper finalement techniquement de mettre les enfants au lit, etc., les amener à l'école et en même temps gérer les rendez-vous et tout. Et puis, comment faire passer le message ? Comment enrober le message ? Pour ne pas qu'il blesse, pour ne pas qu'il... Et là, on a remarqué qu'en fait, il y avait un sujet, de façon générale, à travailler. Comment faire pour que... Là, on parle au con. À l'homme, donc pour, par rapport à sa femme, comment faire pour qu'elle se sente en confiance, pour qu'elle se sente qu'elle a reçu assez d'attention, on a été attentif et attentionné pour qu'elle puisse facilement recevoir les remarques. Et là, c'est ça un peu ce qu'on a vu. Donc on a vu maintenant la question de reproche. Est-ce qu'il y a lieu de faire un reproche, une réprimande, une remarque ? Alors, il y a différentes sortes. Il y a le cas où il s'agit d'une remarque, une suggestion au niveau de l'éducation, etc. Même ça, on peut le faire bien, on peut le faire mal. On peut dire, mais pourquoi tu fais comme ça ? Tu as besoin d'être dur avec l'enfant quand tu le mets au lit ? Pourquoi tu ne peux pas être plus douce ? C'est pas une suggestion, là. C'est déjà un reproche et c'est pas très agréable. Même si, en théorie, ça aurait pu être, Pachou, un sujet d'étude entre le mari et la femme.
Elle a été la journée entière avec lui, quand même. Donc, que nous, on arrive à la fin...
Non, mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord.
Donc, elle a eu les angoisses.
Bien sûr, tous les déboires, etc. C'est sûr, c'est évident. Mais, donc, au lieu de s'intéresser à sa femme, comment elle a passé sa journée et pourquoi maintenant, pour essayer de comprendre un peu pourquoi elle est tendue avec l'enfant, on vient, on lui dit, mais qu'est-ce que tu tombes sur ton enfant ? En fait, on est en train de tomber sur elle. Donc, c'est un problème. Mais maintenant, il a parlé, Rabbeinu, d'un cas où on est blessé. On est blessé par le comportement de notre épouse. Alors, est-ce qu'on en parle ? On n'en parle pas. On a choisi un exemple simple. Si elle veut, on arrive à la maison le soir fatigué, on espère qu'il y a un bon repas, etc. La femme est au téléphone, on attend un peu le repas. Bon, ben, tu peux sortir au frigidaire, je sais pas, tu te fais une omelette, j'en sais rien, tu te débrouilles. Moi, je suis occupé. Bon, le mari, en général, il est pas très content dans ce genre de cas, sauf s'il n'attend pas ça de sa femme. Et s'il attend ça de sa femme, il est déçu. Il y a une déception. Quand il y a une déception, il y a un ressentiment. Comment ?
S'il attend de l'attention et qu'il n'en a pas.
S'il attend de l'attention et qu'il n'en a pas de sa femme. C'est ça, en fait. Il n'en bat toujours le repas. Des fois, il attend que sa femme lui vienne, souriante, etc. Elle s'est un peu préparée pour son mari. Elle n'a pas les nerfs. Elle est en... On dit là-bas, elle a fait le ménage. Ouais.
Il faut mettre les choses un peu à jour parce que y a beaucoup de choses que tu dis
qui sont pas à jour,
qui sont, à mon sens, pas valables aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
Malheureusement, j'aurais voulu que ça le soit. Hein. L'histoire de l'homme qui rentre, la femme qui lui fait à manger, mais ça existe encore, ça ?
Ouais, ça existe.
Ça existe.
Rachel, la femme le prépare à manger.
Ça existe. Il fait
de l'embrouille
là-haut.
Mais c'est pas ça que tu dis, il est pas
grave. Non, mais il y a plein de choses qui disent sur le rôle de la femme, la tenue de la maison, mais moi, c'est aujourd'hui, il n'y a plus de rôle, quoi.
On est là pour ça.
J'aurais voulu que ce soit structuré.
Bon, Bezrat Hashem, Léa, doucement. Mais en tout cas, ça existe encore.
Ça existe.
C'est une denrée rare, mais ça peut se trouver. Mais bon. En tout cas,
ça peut se transformer.
C'est une autre génération. Quoi. Non, parce que vous êtes peut-être d'une génération un peu plus ancienne. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, en 5 ans, une génération, elle change, quoi, je pense.
Est-ce que la femme travaille ?
5 ans de mariage, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Voilà, il y a beaucoup.
Il ne travaille pas, je pense qu'il y a plus de temps.
Exactement.
Techniquement,
un des points importants, on avait déjà parlé, mais je ne veux pas reparler de ce sujet tellement parce que c'est plus là. C'est la question de si le mari, il a vu sa mère à la maison, mère au foyer, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, d'être attentionné, quand le père a 38 de fièvre, elle lui prépare un thé, etc., elle amène au lit. Mais il a vu ça, donc il attend ça de sa femme. Et s'il attend de sa femme en même temps de se lever à 6h du matin, amener les enfants à l'école, 2h de route, et après aller au travail jusqu'à 5h de l'après-midi, c'est délicat. Il y avait une fois un mari, il m'a dit...
C'est esclave.
Comment ?
Ça devient esclave.
Ah, c'est esclave. Bon, je vais pas dire ce que Marie m'a dit, mais en tout cas, des fois, c'est pas logique. Ce que les maris attendent de leur femme, c'est pas logique, des fois. Puisque si la femme, elle travaille, elle peut pas faire ce que le mari a vu chez ses parents. Elle ne peut pas reproduire ça.
Elle a beaucoup de choses à faire, la femme.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Le but maintenant, justement, je ne voulais pas parler maintenant des rôles. Je voulais parler une fois qu'il y a une déception. La déception est là. Ça ne veut pas dire que la femme a tort. Ça ne veut pas dire que le mari il a peut-être raison d'attendre ce repas. La femme, elle n'est peut-être pas capable pour l'instant de préparer ce repas-là. Et peut-être que non. Peut-être que peut-être la femme, elle a tort. Mais à tort ou à raison, elle n'a pas préparé le repas. Peut-être qu'elle est occupée avec sa copine à discuter et elle aurait pu raccrocher le téléphone. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à sa femme. Naturellement, la femme n'est pas capable de raccrocher le téléphone avec sa sœur ou avec sa copine. Elle a peur de la froisser, etc. Même si elle préfère préparer à son mari un repas ou l'accueillir, etc., et discuter avec lui, mais elle n'est pas capable de couper une conversation. Alors que le mari, moi, quand j'ai fini un truc, tac, c'est bon, on a fini de régler avec le gars ce qu'il fallait. On finit facilement. La femme, c'est pas comme ça. Et des fois, c'est difficile parce qu'on attend autre chose. Mais si on vient, on dit non, mais faut raccrocher le téléphone, c'est pas comme ça que ça marche. Elle comprend pas, elle se dit, mais l'homme, il comprend pas la femme, il comprend pas ce que c'est des amis.
Les conflits arrivent, quoi.
Les conflits arrivent.
Voilà, là, les conflits arrivent. Donc, il faut avoir un certain recul, comme il a dit Rabbeinu. Mais ça veut pas dire qu'on n'en parle pas, parce que si on n'en parle pas, c'est pas la solution. Alors.
La frustration, c'est bon.
Comment ?
La frustration n'est pas
bien sûr, la frustration, la déception, etc. Et c'est sûr que c'est pas bon. Maintenant, on n'est pas toujours en état de le faire. On n'a pas toujours la maturité dans le couple et la maturation du couple pour le faire. Des fois, il y a des choses plus urgentes. Des fois, c'est pas mettre sur la table ce que je ressens qui est important, mais d'abord apporter à sa femme sans condition, mais je veux dire sans limite, parce que pour l'instant elle est desséchée, on est obligé sans, mais après on est obligé à un moment d'exprimer notre sentiment. Alors là, on est comment faire les choses. Alors il y a une possibilité de faire un reproche, une possibilité de raconter ce qu'on a ressenti. C'est pas que dans le couple, c'est dans tout ça, dans les associés, dans les employés, dans tout. Si je raconte ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup plus facile à l'autre d'accepter que si je lui dis ce qu'il a mal fait. C'est une habitude qu'on, de façon générale, est-ce que je dis tu as fait ou tu n'as pas fait, ou bien je dis j'ai ressenti.
Ouais.
C'est toujours plus facile pour l'autre d'entendre ce que moi j'ai ressenti que plutôt que je parle sur lui.
Ouais, c'est peut-être pas ce que tu as voulu faire.
En fait, je dirais directement ce qui se passe. En fait.
Déjà, ça c'est entre eux, excusez-moi de vous le dire, mais c'est peut-être pas ce que tu as voulu faire, mais c'est ce que j'ai ressenti, c'est un reproche. Alors que dire, tu sais, hier il y a eu un truc intéressant. Je ne me sentais pas très, très à l'aise. J'avais faim et tout, et finalement, je suis resté sur ma faim, par exemple. Bon, la fin de la phrase, elle est un peu dure, un peu sèche. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas ce que tu as voulu, mais c'est ce que j'ai ressenti. Parce que...
T'avais qu'à te faire à manger, quoi.
Comment ça, là, c'est dire,
t'avais qu'à te faire à manger.
Voilà. Ah, comment
t'avais qu'à te...
Enfin, on... Alors voilà, donc là, en fait, il y a un sujet plus profond. Est-ce que la femme est censée préparer à son mari à manger ? Donc, si la femme, elle considère, pour l'instant, dans sa conception du mariage et de la famille, le repas, bah, tu peux te commander un repas. Ou bien tu prépares tout seul. Donc, c'est pas la peine d'être déçu puisqu'elle a une approche différente. Il faut essayer de réfléchir. Mais si je raconte pas ma déception, en fait, il faut savoir que souvent, la raison pour laquelle la femme prépare à manger, c'est un exemple, hein, prépare à manger, parce qu'elle sait pas ce que le mari attendait. On croit que c'est parce que notre femme, elle est pas prête à faire pour nous. Souvent, c'est parce qu'en fait, elle sait pas ce qu'on veut. Et elle est déçue du fait qu'on partage pas nos pensées. Moi, ce que c'est ça que j'aimerais bien. Après, on entend la semaine prochaine. Chacun rentre à la maison, c'est une suggestion. Chacun rentre à la maison et dit à sa femme, dis-moi, j'aimerais, est-ce que tu sais ce que j'attends ? Quelles sont mes attentes, mes espérances ? Bon, on va pas le faire aussi tellement.
On vient de sortir d'un cours, c'est normal.
Voilà. Il va se calmer bientôt, il va se calmer. Demain, ça va être plus normal. Non, j'ai pas dit comme ça depuis tant de temps. Ce que je veux dire, c'est que essayez de regarder chacun avec son épouse.
Bon,
est-ce que...
On peut faire la question inverse. Qu'est-ce que toi tu as enfin, on peut dire
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi je fais exprès de parler comme ça. Ça c'est sûr, ça c'est la partie, c'est ce que je vais dire il y a 5 minutes. Si on ne donne pas à sa femme ce qu'elle a besoin, Bichlal, on est en problème. Mais ce n'est pas suffisant de donner à sa femme ce qu'elle a besoin. La femme, ce qu'elle a besoin, c'est surtout, pas surtout, c'est aussi beaucoup de savoir.
C'est dangereux.
Comment ?
C'est aussi dangereux de poser la question. Si on commence par lui dire, elle, qu'est-ce qu'elle attend ?
C'est pas dangereux. Si tout va bien, c'est pas dangereux. Il manque juste un petit détail, si tout va bien. S'il n'a encore rien donné, c'est vrai que c'est compliqué. Mais... Bon, Ratachem, là, doucement. Pour l'instant, je parle de ce sujet-là parce qu'un sujet qui est moins traité. C'est-à-dire qu'en général, on sait qu'on doit donner à sa femme de l'attention, etc. On n'est pas conscient que notre femme, elle a besoin qu'on s'exprime sur nous-mêmes, sur nos attentes, nos espoirs, nos aspirations. Et on ne le fait pas par orgueil. Ou parce qu'on n'est pas le mari, il n'est pas trop de gens à communiquer. Il donne des ordres, entre guillemets. Il impose.
Il ne s'ouvre pas.
Comment ?
Il ne s'ouvre pas.
Il ne s'ouvre pas. Le mari, dans le couple, il ne s'ouvre pas beaucoup. Sauf par les conflits. Les petites colères ou les grandes colères. Ça, là, il s'exprime. Mais avant ça, il ne s'exprime pas. Avant ça, il se tait. Et la femme, elle n'a aucun moyen. Est-ce que c'est vrai, Benoît, ce que je dis ?
Oui, bien sûr.
Il faut demander à son épouse, elle va dire ça. Je suis frustré, elle va dire. Pourquoi tu es frustré ? Parce que je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas ce que tu attends. Et après elle pleure, mais comment tu veux que je fasse les deux ? Tu veux que je prépare à manger ou tu veux que l'enfant il soit au lit ou tu veux que la maison elle soit rangée, n'est-ce pas ? C'est ça en fait le problème. Elle sait même pas qu'est-ce qu'on attend d'elle.
Non, c'est vrai que non, c'est des fois, elle se justifie. La raison, je n'ai pas pu faire manger, mais d'abord parce que la maison est propre. Alors la maison n'est pas rangée, mais parce que j'ai fait manger.
Voilà, bien sûr.
En fait, il y a une justification.
Mais elle ne sait même pas ce qu'on attend d'elle. C'est pas qu'est-ce qui est important vraiment pour nous et qu'est-ce qu'on attend d'elle. Si le mari, ce qui lui importe vraiment, c'est que sa femme se fasse un peu jolie pour lui et qu'elle soit souriante quand il l'accueille. Et que elle, lui, c'est ce qu'il attend. Mais elle croit que ce qu'il attend, c'est que la maison soit rangée. Mais elle s'en fiche complètement. Il s'en fiche peut-être. C'est quoi, il s'en fiche? Il préfère que la maison soit rangée, mais c'est pas ce qui est important pour lui. Pour l'instant, il est en salon, il n'est pas dans les chambres pour savoir si elle refait là-bas les carreaux. Lui, il s'en fiche. Mais elle pense que quand elle fait les carreaux, c'est pour lui qu'elle fait les carreaux. Lui, la vérité, il s'en fiche. Royalement.
Il y a un problème de communication déjà entre le couple.
Mais c'est toujours comme ça, Rabbi. C'est toujours comme ça naturellement. Si on fait pas un travail particulier, c'est toujours comme ça.
Parce que son père, il aimait les carreaux.
Comment ?
Souvent, c'est parce qu'elle a vu chez son père qu'il préférait les carreaux.
Peut-être. Ah. Ou bien parce qu'elle, peut-être naturellement, elle donne de l'importance à ça. Elle donne l'importance.
C'est vrai.
T'as remarqué, j'ai fait les carreaux ?
Ouais. Mais si le mari, il est capable de voir ce que sa femme, elle a fait, il est capable de voir qu'elle a fait les carreaux. Et après, lui dire, c'est magnifique les carreaux. Attends, je peux bien voir à l'extérieur, mais je veux voir à l'intérieur s'il y a ça qui m'intéresse maintenant. Non, ça a l'air des choses banales, mais c'est sur ça, en fait, que. C'est ça, les déceptions. Voilà, l'attention qu'on donne à sa femme, mais aussi. Qu'on exprime à sa femme nos priorités. Gentiment, qu'on exprime à notre épouse qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Et ça va beaucoup la rassurer. Et ça va en fait montrer aussi à l'épouse que le mari est intéressé par le kécher entre eux. Par le lien entre eux. Parce que si c'est juste ce qu'il est déçu ou si c'est juste ce qu'il attend d'elle, d'une façon, je veux ci, je veux ça, c'est pas partager ensemble quelque chose. C'est des ordres en fait. C'est comme une femme de ménage, femme de shalom. Mais si c'est l'inverse, il exprime parce qu'il veut, il montre à sa femme qu'en fait ce qui est important pour lui c'est l'union par exemple. Et pour être unis, il faut manger un repas ensemble. C'est pas elle occupée au téléphone ou bien ranger la maison et lui il se prépare une omelette, c'est pas la peine. Si elle a préparé un repas, elle vient comme ça, mignonne et tout, ils s'assoient ensemble, ils discutent, ils ont éteint le téléphone. Mais ça demande un sacrifice du mari. Est-ce qu'il est prêt lui pendant ce repas-là à éteindre le téléphone? S'il n'est pas prêt à éteindre le téléphone. Donc en fait, il veut que sa femme elle prépare à manger, mais qu'est-ce qu'elle va recevoir en compensation? Il va manger comme ça vite fait, il va parler au téléphone. Il ne va pas préparer le repas. Mais si ce qu'il veut vraiment, c'est passer un bon moment avec sa femme, où ils peuvent échanger, il raconte un peu sa journée, elle raconte sa journée. Comment ?
Il fera un bon repas.
Donc c'est sûr que ça demande un sacrifice du mari. Mais ça, ce n'est pas des grands jours. Les bons repas ensemble, ce n'est pas des grandes occasions, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a au moins un repas où on passe ensemble tranquillement, sans téléphone. Sans enfants aussi, bien sûr, c'est vrai aussi. Oui. Souvent, c'est une source de tension. Quand les enfants, ils rentrent encore ou au salon, salle à manger, cuisine, je sais pas où chacun y mange, etc. Et j'ai pas brossé les dents, et j'ai pas fait mes devoirs, et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Comment ?
C'est une vraie tension, les enfants.
Ça crée des tensions, ça, parce qu'on n'a pas de moment de qualité ensemble. Dans ce cas-là, le problème, c'est quoi ? C'est que le mari, il a pas vu ce que c'est mettre au lit les enfants. Donc il pense que c'est en deux temps trois moments.
En fait, le truc c'est que nous, on décage, on travaille la journée. Soit quand on rentre.
Pour se reposer.
Ouais, on travaille pour se reposer. Le soir quand on rentre, c'est vrai qu'on voit des fois la femme qui crie avec les enfants.
On comprend pas.
Parce qu'elle est restée dans la zone avec elle.
Bien sûr. Elle a récupéré les enfants.
On a envie de dire.
Non, mais c'est une réalité, je pense, pour quasiment tous ici, pour nous tous. On est tous confrontés à ça, quasiment tout le monde.
On a envie de le dire,
avec notre regard, on le dit. Mais qu'est-ce qui se passe? On le dit, bien sûr qu'on le dit. Mais donc, il faut voir comment gérer ça. Être conscient, si on raconte à son épouse combien on est impressionné par ses efforts, on n'aurait pas pu tenir une journée avec les enfants, par exemple. Si on réalise, on le dit, ça change tout pour la femme. Non ?
Ça valorise.
Et ça lui donne aussi, à part sa valeur, ça veut dire qu'après, quand on va faire le reproche, on va dire, parce que vraiment, on veut qu'elle s'adoucisse, mais elle comprend qu'on est sur la même longueur d'onde. On sait de quoi on parle. Sinon, c'est arbitraire, notre décision. Ça n'a pas de sens. Tu dis, il faut pas de rigueur, ouais, il faut pas crier ou je sais pas quoi, mais Tarles, comment on fait, comment je fais? Elle demande. Alors que si on montre. Donc tout ça, c'est dans la communication, c'est-à-dire que. On a parlé de plusieurs points. Donc, comment, quoi ne pas dire? Ne pas dire, tu n'as pas fait ça, tu dois faire ça, etc. Mais plutôt, qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Qu'est-ce qui serait plus agréable pour nous? Et plus on explique pourquoi ça nous touche et ça nous rassure, plus ça fait avancer les choses. Parce qu'en fait, c'est plus un ordre, mais c'est une.
Un partage.
Plus qu'un échange, c'est un partage. Ça veut dire que on partage ensemble une vie commune. Et en fait, la femme, elle est très touchée quand le mari, il est prêt à raconter un peu ses sentiments, etc. Ça, si le mari, quand il est au travail, il a quelque chose d'un peu difficile, il n'en parle pas. Il doit toujours être l'homme fort. La femme, elle ne sait pas vraiment que son mari, il a confiance en elle, etc. Alors, ça ne veut pas dire que chaque petit problème qu'il a au travail, il va raconter. Mais si elle voit qu'il est ouvert, ça comment ?
Puis elle est souvent de bons conseils.
Elle a souvent de bons conseils. Mmh. Mais avant le bon conseil, c'est d'abord le fait qu'ils partagent ensemble. Il est à l'écoute, mais ce n'est pas seulement à l'écoute. On avait parlé la semaine dernière de l'écoute, mais c'est aussi qu'il est prêt à ouvrir un peu. Pas Khadr Shalom, les choses dramatiques ou les choses qui... S'il a fait des choses qui ne sont pas très nettes, il n'est pas obligé de trop en parler avec sa femme. Mais ça, il fait le vidouille avec Akadash Barankou. Mais de s'ouvrir un peu plus. On n'est pas que les choses elles soient incomprises. Si par exemple, il attend qu'ils aillent se promener ensemble. Mais lui, il veut ça. Et la femme, en fait, aussi, elle rêve de ça. Mais lui, quand il n'a jamais exprimé vraiment pourquoi il a envie de ça et combien c'est important pour lui. Et au dernier instant, il dit, allez, hop, maintenant, on va se promener dans une demi-heure. Elle dit, mais impossible, la cuisine, elle n'est pas faite, etc. La vaisselle, les enfants, ils ne sont pas au lit. Comment ?
Je ne suis pas prête.
Je ne suis pas prête. Et le mari, il est frustré. C'est un exemple, mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens, ça. Ou un dimanche, ou un week-end, on va partir un seul week-end, on va laisser les enfants chez les parents. Mais le mari, en fait, il ne raconte pas pourquoi c'est important pour lui. Moi, il veut partager avec sa femme. C'est un coup de tête comme ça. Comme c'est un coup de tête de la part du mari, donc la femme, elle dit non. Mais si le mari...
Des fois, elle dit oui.
Bien sûr. Mais là, on n'a pas besoin de parler dans ce cas-là. Tout est bien dans le meilleur du monde. Bien sûr. Mais si ça vient un coup de tête du mari, alors elle dit oui, mais... Souvent, c'est comme ça. Non, je crois comme ça. Oui, mais comment on fait ? Et le mari, il est frustré.
C'est moi qui dis comment on fait.
D'accord. Bon, il y a des cas comme ça. Ça existe.
On n'est pas financé avec les enfants et la maison.
Non, je parle des enfants.
Non, les enfants, on les met.
Oui, non, bien sûr.
Non, financièrement, je ne peux pas. Je parle sur où on les met les enfants. Qu'est-ce qu'on fait ?
Non, bien sûr, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? La femme, elle va dire à son mari. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est le mari comme ça. Mais souvent, c'est comme ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on paye ce voyage ? Oui, mais. On n'a pas fini telle chose, on est en plein projet, etc. C'est-à-dire que le mari, il n'a jamais exprimé vraiment pourquoi c'est important pour lui. Il n'a jamais vraiment montré que c'est important pour lui, le couple. Et puis Tom, il a une crise de nerfs. Il n'a pas une crise de nerfs, mais il a une crise comme ça, ça l'intéresse. C'est ça la nature de l'homme. Il saute comme ça du coq à l'âne. Et la femme, elle n'est pas capable parce qu'elle a des responsabilités. C'est elle qui est responsable finalement de savoir où les enfants ils seront, comment on fait. Si on part un week-end ensemble, on revient ce dimanche soir. Et les enfants, alors ils dorment encore chez papy et mamie dimanche soir. Lundi, ils vont arriver en retard à l'école. Qui les prend ? Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche, le mari ? Jeudi après-midi, quand il revient, il appelle du travail. Voilà, je reviens dans une heure. Dans deux heures, on a le train, l'avion, la voiture, on va. J'ai déjà commandé, j'ai déjà réservé. Mais qu'est-ce qu'on fait lundi matin avec les enfants ? Quels vêtements ils vont mettre ? Mais qu'est-ce que je m'en fiche maintenant ? Il s'en fiche, le mari. Mais non, c'est souvent comme ça. On est toujours dans cette situation-là. Bon, sauf vous dans l'autre sens, mais je parle. Ah d'accord, ah, ça arrive aussi, d'accord. Comment ?
Ça arrive aussi, oui.
Ça arrive aussi dans ce sens-là, d'accord. Mais c'est pas que c'est pas important. Si c'est important pour nous, alors ça l'est. Pas parce que c'est important pour le couple. Ça l'est. C'est important pour moi, c'est déjà important pour le couple. Mais il faut savoir s'exprimer une semaine à l'avance. Et raconter comment on sent qu'on a besoin de passer du temps ensemble, sans les enfants, on a besoin du temps, etc. Comment ?
Ah oui, non, c'est vrai.
Mais si on prépare les choses comme ça, la femme, elle est considérée, elle est intéressée. Après, on dit, regarde. Qu'est-ce que tu penses ? Quel Shabbat ça t'intéresserait ? Ou quelle soirée ? J'en sais rien. Ça peut être un week-end, ça peut être une demi-heure passée ensemble sans les enfants ou sans le téléphone ou sans truc. Mais si, c'est au dernier instant, la femme elle dit oui mais il est trop tard, oui mais je suis fatigué, oui mais etc. Donc, c'est-à-dire que plus on va en fait partager avec sa femme, plus ça va la soulager. Elle va être capable après de faire des sacrifices entre guillemets sur son emploi du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand je propose à ma femme, viens, on va faire telle chose, ensemble. Donc au fond, mais si vraiment la femme aime le partage, pourquoi elle refuse ? C'est parce qu'en fait, on ne tient pas compte de son emploi du temps. On pense que nous on a notre... Par exemple, si la femme dit à son mari, regarde, demain mardi par exemple, même temps on est lundi, demain mardi, on va ensemble, on va faire une journée. On va aller... je sais pas moi, dans un parc, on va se promener, on va aller à la mer, on va aller à Deauville de jour. Marie, qu'est-ce qu'il dit ? Mais t'as rêvé ? J'ai des rendez-vous, n'est-ce pas ? Est-ce que ça vient à l'idée de la... Quand tout va bien, à l'esprit de la femme de proposer en pleine semaine d'aller passer deux jours comme ça à Deauville.
Je pense qu'elle ne le fera pas déjà, la femme, ça.
Sauf si elle a appelé le patron, qu'elle a déjà réglé.
Bon, naturellement, la femme ne le fait pas. Elle ne propose pas des choses quand le mari...
Parce qu'elle
sait. Impossible. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que le mari, il a un emploi du temps, il a un travail, il a un cadre de vie, et il ne compte pas comme ça du jour... À moins qu'il y ait un picot à Arnépêche, il y a un accouchement, tant qu'il n'y a pas l'accouchement, c'est pas... Il ne bouge pas. Mais la femme, en fait, c'est ça le problème. C'est que le mari, il sent souvent, je pense comme ça, peut-être je me trompe, mais souvent le mari a l'impression que l'emploi du temps de la femme...
Il lui appartient.
Comment ?
Il lui appartient.
Il lui appartient, il peut sauter comme ça. C'est pas qu'en fait il lui appartient, c'est qu'il n'existe même pas. C'est-à-dire qu'elle est...
Elle est 100% disponible.
Elle est 100% disponible pour lui. On ressent tous ça naturellement. Ouais. Et comme on ressent ça, nous, ça la frustre. Donc si on dit à sa femme, c'est important ton emploi du temps, dis-moi quel est ton programme. Parce que, en fait... Je ressens le besoin pour qu'on passe du temps ensemble, etc. Mais je sais pas quel est ton temps, qu'est-ce que tu as prévu. Et là, direct, elle dit mais quoi, qu'on passe du temps ensemble, mais tu rigoles. La vaisselle, c'est rien, demain je la fais. Elle va le dire comme ça, mais si tu lui dis sans cet agdama là, il y a un verre qui n'est pas fait encore, on peut pas, le tapis, on n'a pas passé l'aspirateur, ou je sais pas quoi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est des petites choses comme ça, mais qui changent beaucoup. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit travailler ensemble, qu'on doit discuter ensemble. Pour essayer d'avancer. Si on dit à notre épouse, regarde, je ne suis pas encore le mari parfait, j'aimerais qu'on étudie ensemble, par exemple, ce sujet-là. Qu'on prenne un livre, par exemple, de Rav Simcha Cohen. Par exemple. Vous connaissez Rav Simcha Cohen ? Rav Simcha Cohen, c'est
un livre en français.
Il y a des livres en français. Le partage, comment ça s'appelle ? Pour le couple, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, c'est un bonhomme en Israël, c'est un pro de Shalom Bayit.
Il est venu une fois.
Il vient à Bezantim dans deux semaines. La semaine prochaine, la semaine du 23 au 27, il vient à Paris, je sais pas où.
Parce qu'il est venu une fois à Sarcelles, mais il n'y avait pas beaucoup de monde.
Bon, il parle aux femmes comme ça, aux madrichotes. C'est intéressant, par un exemple, il parle aux madrichotes. Il y a peut-être 100 madrichotes qui viennent. Il parle aux madrichim, il y a peut-être 10, 20 madrichim. Formateurs, voilà, il y a quelques, on les connaît sur le bout des doigts. Il n'y a pas personne, les hommes, ils ne s'intéressent pas tellement au Shalom Bayit. Et donc, et la femme, ça l'intéresse. Donc, si par exemple, on prend un livre de Rav Simcha Cohen, c'est un exemple, et on dit on passe 10 minutes ensemble à lire, elle va kiffer, la femme. Mais à condition que c'est pas quand elle est en train de faire la douche à l'enfant, regarde, j'ai acheté un livre et on le voit ensemble. Elle dit au revoir, c'est pas. Tu veux t'occuper de Shalom Bayit avec ta femme, alors d'accord, laisse-moi filmer la douche au petit. Mais si on raconte à sa femme combien c'est important pour nous, par exemple, il y a parfois des séminaires, un Shabbat, séminaire pour le couple. Un week-end, c'est le kiff, ça, pour la femme.
Il y en a un ce Shabbat.
Il y en a un ce Shabbat, ah ouais ? De qui ?
Rav Lemel.
De Ali Lemel. Voilà, c'est très bien, ça. Mais ça, la femme, elle rêverait, ça.
Ah ouais.
Mais à condition que ce soit pas comme ça. Même la meilleure chose, elle veut pas comme ça, de but en blanc. Parce que si elle a préparé autre chose, elle a déjà fait un gâteau pour sa mère. C'est foutu. Elle a préparé un gâteau pour sa mère, elle compte inviter sa mère et préparer un beau gâteau. Tu parles dans l'air. Comment ? Non, et voilà, pour toi c'est raison supplémentaire pour partir peut-être, je comprends. Mais pour la femme c'est foutu. Et le mari il comprend pas comment ça c'est. Il comprend pas pourquoi pour un gâteau qu'elle a préparé ou bien elle avait dit à une amie qu'elle allait passer après le kidouche à midi, etc. Elle est passée lui dire bonjour. Alors quoi, c'est plus important sortir en parc avec une copine, avec les enfants. Quoi, c'est plus important de partir avec sa copine que passer un Shabbat ensemble. Tu te plains toujours, non ? Je me plains toujours et je continuerai à me plaindre. Tant que tu accepteras pas que j'ai un emploi du temps, j'ai un kavod à respecter, j'ai une place sociale, etc. Que je suis obligé de respecter. Mais si le mari prend en compte tout ça, en considération, et après, alors naturellement, il est un peu plus impulsif que la femme par rapport à ce genre de truc. Il n'est pas obligé de changer sa nature par rapport à ça, mais au moins essayer de la travailler, c'est au moins de travailler sa nature pour présenter les choses, pour non bon c'est de ça. Donc okay. Il y a beaucoup à faire sans arriver au stade des conflits pour éviter tous ces conflits là accepter le fait qu'il y ait plusieurs approches et savoir comment communiquer. C'est un art en fait de communiquer. Il parle beaucoup de ça, c'est tout un art de communiquer. Quand tu apprends à donner une conférence, celui qui apprend, c'est un coin par exemple, il forme les gens à donner des conférences. Il y en a d'autres qui font ça. Rav Negorchal, vous connaissez ? Oui. Israël, c'est un pro, c'est un conférencier, mais professionnel. Même s'il dit rien d'intéressant, c'est captivant. C'est comme ça. Rav Negorchal. Il y a des livres aussi traduits en français sur le Mahamad Ersina et sur tout ça. Tu l'entends, après si tu dis, mais qu'est-ce qu'il a dit finalement ? Même s'il il dit des choses intéressantes, même s'il a rien dit, c'était magnifique. C'est l'art de poser la question, l'art de présenter, la considération, etc. C'est magnifique. Pareil, Rav Simcha Cohen, c'est un pro de la communication. Mais c'est un art. Et chaque mari, il est obligé d'apprendre un peu ça. Obligé. Sinon, c'est foutu. Dans l'ordre d'aujourd'hui, on ne peut plus s'en apprendre un petit peu. C'est pas du cinéma, pas du tout. Pas du tout, mais...
C'est la forme.
C'est la forme. La forme, c'est important. Naturellement, on est plus dans le fond. Mais la forme aussi, c'est important. La forme, ça permet en fait de...
Dégoûter le fond.
d'écouter le fond, voilà, d'accepter ce fond-là pour que la femme elle puisse accepter, pour que l'homme aussi. Ça aide aussi l'homme à savoir en fait donner des priorités aux choses. Ça veut dire que si maintenant il a une crise, il veut passer une soirée avec sa femme sympathique. C'est une crise en fait, parce que ça va pas construire son couple. Puisque c'est pas, si c'est mal géré, ça construit pas. Si par exemple, il y a des enfants qui sont lésés, les enfants ils pourront pas aller demain à l'école à l'heure, bah c'est pas bon. C'est bizarre, mais c'est pas bon. En tout cas, la femme elle est pas d'accord dans ce cas-là. Donc déjà, c'est pas bon. Alors, même si c'est une grande chose, mais ça passe pas. Il veut faire une grande chose, le mari. Il veut aider une yeshiva, il veut. Mais si c'est avec sa femme, si ça passe, alors ça passe pas. Donc ça veut dire que la forme elle est importante. Pour la forme, Moshe Rabbeinu il a sacrifié l'homme Israël, entre guillemets. N'est-ce pas? Lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va sauver l'homme Israël, il a dit non. Pendant 7 jours, il a refusé. Parce qu'il avait peur de vexer Aaron à Cohen. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé un truc pour un chiour, etc. Il a dit non, désolé. Si un tel m'appelle, je réfléchirai. Il m'a dit pourquoi? Mais d'abord, vois si tu acceptes. J'ai dit mais non. Si j'accepte ça, c'est-à-dire que j'empiète sur son terrain. Il m'a dit oui, mais c'est lui qui veut. Je lui ai dit j'en sais rien. S'il m'appelle, on verra. Tu peux pas faire des choses, faire des shurim, etc. Il m'a dit mais justement, c'est ça le but. J'ai dit quand tu m'appelleras, on réfléchira. On peut pas. On peut pas faire avancer des choses sur le compte de gens s'il n'y a pas une. Donc la forme, c'est important. Mais le mari, tout seul, il réfléchit. Il remarque pas toujours ça. Mais la femme, elle le laisse pas passer, en fait. Parce que ça la vexe, ça la bloque, ça la frustre. Donc elle laisse pas passer. Heureusement qu'elle laisse pas passer. Ça oblige l'homme, en fait, à poser les choses. À poser les choses, à ne pas être pris dans un engrenage qui ne s'arrête pas. Il a une affaire, il oublie tout. Souvent, le mari, il a une affaire, il oublie complètement tout. Dans le travail, il a une affaire intéressante, etc. Heureusement, après, il y a Shabbat, il est obligé de prendre le téléphone. À ce moment-là, sa femme peut le rencontrer. Donc, il n'a pas, comme dans le fond, il dit c'est important. Après, Bezrat Hashem, je pourrais aller étudier, je pourrais m'occuper de ma famille, je pourrais. Bezrat Hashem, juste cette affaire, et après, c'est bon. Mais quand la forme n'est pas respectée, finalement, le fond n'avance pas en général. C'est pas trop exagéré non plus, mais. Et la femme, elle aide ça, parce qu'elle est dans la forme. Dans la forme, ça passe pas. Ça, avec un tel. C'est, quand je dis dans la forme, c'est pas dans la forme, c'est grave de vexer quelqu'un. Dans la forme, je veux dire que. Elle dit quand. Je veux bien ton idée, mais comment on le fait? Et elle dit pas ça, elle dit non, c'est une mauvaise idée parce que ça va faire telle chose. Alors il faut pas se vexer, il faut être capable de réaliser qu'elle nous donne un message et après remettre ça sur le tapis, mais différemment. Et après, on peut tout faire, quasiment tout, mais avec patience. Quasiment tout ce qu'on voulait, on peut arriver. Mais notre femme aussi, tout ce qu'elle voulait, elle pourra arriver. Donc c'est pas dans un seul sens. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait, c'est être écoutée par son mari, ce qu'elle voulait, c'est être guidée par son mari, pas dirigée. Pas des ordres, mais elle veut être guidée par son mari. Elle ne sait pas tout seule, la femme, qu'est-ce qui est important, comment il voit le Shabbat, comment le mari voit le Shabbat. Comment vous voyez le Shabbat? Pas vous voyez tutoyer. Vous voyez le Shabbat. Comment un homme, il voit le Shabbat?
Le repos.
De famille. Le repos.
Ouais, non,
le repos, bien manger, dormir.
Une sérénité.
T'as un seul repas avec ta femme, déjà.
Pourquoi un seul repas? Trois repas.
Le soir, elle a déjà mangé quand on arrive. Comme il disait, je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure. On mange jamais.
C'est
le seul Shabbat où t'es avec ta femme à table. En fait.
Voilà. Ah, en semaine, tu parles. D'accord, je ne comprenais pas ce que tu disais Shabbat. Voilà.
On va pas nous faire.
Voilà. Alors.
Shabbat, il y a un seul repas.
Oui. Non.
Ouais, j'ai pas compris. D'accord, je t'ai dit, on n'est pas dans le même judaïsme. Mais en tout cas, bref. Non, le Shabbat, comment on le voit? En fait, souvent, on n'a jamais parlé de ça. On peut être 10 ans, 15 ans mariés, 20 ans mariés, on n'a jamais parlé comment on attend, comment ça a l'air le Shabbat à la maison. Le mari, il vit dans le naturel. Maintenant, il est fatigué, il va dormir. Maintenant, il a faim, il mange. Souvent, c'est comme ça le Shabbat. Si on réfléchit bien, la femme, elle s'est tuée pendant 3 jours à préparer les repas de Shabbat. Et finalement, qu'est-ce que c'est? Le mari, il est fatigué, il mange, il va dormir.
Et on va dire qu'il y a un peu plus quand même le Shabbat.
Non, j'exagère, je prends l'extrême maintenant. Mais juste pour montrer que cet extrême, ça montre en fait qu'ils ont jamais réfléchi ensemble qu'est-ce qu'ils attendent du Shabbat. Qu'est-ce que la femme aspire du Shabbat? Pourquoi elle se fatigue pendant 3 jours, elle est à la cuisine pour cuisiner? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle attend du Shabbat?
Des compliments, quoi. Partager avec son mari.
Pas seulement partager avec son mari, pas seulement des compliments. Qu'est-ce qu'elle attend?
De l'attention.
Pas seulement de l'attention.
Faire plaisir à son mari.
Pas seulement.
Une reconnaissance.
Pas seulement. Comment?
Une reconnaissance.
Pas seulement.
Bah, tout non, alors.
Vous parlez que du mari. Elle attend plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle attend?
Communiquer.
À part ça, pas le mari. Oublions le mari.
Se retrouver avec elle.
Elle attend que ça se passe bien.
Elle aussi de se reposer.
Alors moi, tout ce que vous dites, c'est vrai. Moi, je voulais parler d'autre chose, juste pour expliquer un point. Elle attend qu'il y ait des repas de Shabbat, shabbatique. Elle attend ça, mais est-ce qu'elle...
On l'a pas.
Comment ?
En fait, c'est ce qu'on cherche à définir.
Je sais, mais... Par exemple, elle attend que le... Je donne un exemple, mais je veux pas...
Oui, qu'il y ait des chants, etc.
Elle attend qu'il y ait des chants. Elle attend qu'il y ait un discours accessible pour les... Pour un discours, façon de parler. Discours accessible pour les enfants. Elle attend que les enfants puissent participer activement au repas de Shabbat. Ce sont des exemples. Je veux pas banaliser en donnant des exemples. Je veux juste dire...
C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de sérénité. Sérénité, en fait, c'est un point d'attention au centre de la table, parce que la table, c'est là où on va se retrouver, même s'il n'y a plus à manger, et que tout le monde puisse se retrouver et être attiré.
Non, vous dites très bien, magnifique, magnifique. Moi, j'étais pas capable de comprendre ce que
je voulais dire.
Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que.
C'est pas obligé, parce que je veux dire que c'est pas obligé que ce soit un discours.
Non,
bien
sûr, c'est ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que on peut être marié 15 ans, on n'a jamais défini en fait qu'est-ce que c'est le repas de Shabbat, qu'est-ce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est pas que le repas. Shabbat, c'est tout un Shabbat. Quand on verra par exemple la mitzvah Ona, admettons, qu'est-ce que la femme elle attend de mitzvah Ona? Elle attend, voilà, un truc, on passe une. Qu'on appelle ça dans la machine, là, le badge ou la. Elle attend pas ça, n'est-ce pas? Bah, dans le repas de Shabbat aussi, elle a peut-être une attente. Elle a peut-être. Il faut en parler. Si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas deviner ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, sauf si on voit putain sur le visage une frustration. Au contraire, elle est contente, elle sourit, mais...
Et ça peut se construire avec les enfants.
C'est-à-dire ?
Ben, voilà ce que je comprends, ce que vous dites. C'est peut-être qu'il y a un sujet qui est qu'est-ce qu'on attend du Shabbat.
Ouais.
Et donc, est-ce que c'est genre, juste la femme et les enfants, enfin la femme et le mari qui doivent discuter de ça d'abord ? Ou est-ce que c'est un sujet qui peut être traité à table avec les enfants?
Ça dépend quel âge ils ont les enfants. Ça dépend. Moi, je pense que la femme, souvent, quand on fait comme ça, moi, ça m'arrive, comme ça, d'être méchatef les enfants, de l'associer les enfants avant d'en bien parler avec ma femme. Elle n'aime pas ça. Donc, il faut d'abord demander l'accord de ma femme, après j'en parle. Je fais des erreurs, souvent je fais des erreurs. Il faut d'abord le mari sourire comme ça, il est naturel comme ça. Tac! Il lance l'idée, avant qu'il ait le temps de réfléchir. S'il voulait vraiment que les enfants disent leur avis, avant que sa femme se soit bien exprimée, est-ce qu'elle veut bichlal qu'on mette sur le tapis la question de savoir où on va en vacances, et est-ce qu'on va en vacances, etc., aux enfants, avant d'avoir bien étudié le sujet avec son mari. Mais nous, naturellement, on y va. Donc il faut demander l'accord de sa femme avant. Parce que souvent ça la dérange. Mais c'est encore un point, la question des enfants, c'est encore un point. Mais bichlal, qu'il y ait une attente du Shabbat, qu'il y ait une attente, si elle n'attend pas que... Le couple, parce que le couple, c'est en fait, si on réfléchit, c'est un moyen de faire autre chose. C'est une finalité, mais aussi, mais on peut pas tourner sur soi tout le temps, c'est impossible. Le couple, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de fonder une famille, il s'occupe d'enseigner la Torah, il s'occupe d'être un foyer, d'être un phare pour les juifs, ou de grandir des enfants dans l'équilibre. Donc ça, ce sont des sujets qu'on doit parler ensemble. Qu'est-ce qu'elle attend du Shabbat? Qu'est-ce que j'attends du Shabbat? Parce que si on ne réfléchit pas avant, après on est dans le naturel un peu plus bas. Il faut être naturel, mais dans un naturel plus travaillé, plus raffiné, pas dans un naturel un peu plus...
Brut.
Plus brut. Le naturel un peu brut, ben c'est les passions qui montent en premier. Même si c'est une passion dans la Torah, mais c'est une passion qui n'est pas travaillée. Alors les enfants, ils ne comprennent rien de voir Torah qu'on dit. En fait, j'en ai passé à côté de la plaque. Ou la femme, elle s'endort pendant le voir Torah, ou ça ne sert à rien. Comment, où elle parle, ou j'en sais rien, mais ça, on n'est pas à la choule pour dire les femmes bavardages. Mais... J'avais compris cette phrase-là, pourquoi on croit que c'est les femmes qui parlent à la choule. Mais bon, en tout cas, c'est un point, c'est un exemple. Le repas de Shabbat, c'est un exemple. J'avais parlé par rapport à aller un week-end ensemble, c'est-à-dire comment mettre sur la table un sujet qui nous importe, mais qu'on n'a jamais travaillé. On n'a jamais travaillé dans la forme. Dans le fond, on a tous un petit peu une idée. Mais des fois, notre épouse, elle a une idée un peu différente. Ou bien elle a la même idée, mais elle ne sait pas comment le faire. Elle veut bien être guidée par rapport à ça. Mais elle veut qu'on en parle. Elle ne veut pas que ce soit tac. Allez hop, c'est comme ça. Elle veut qu'on constate que c'est important pour le mari d'échanger sur ce sujet-là. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Surtout, en fait, on remarque ça quand ça arrive. Yom Tov, on remarque ça. 3 jours de fête. Alors on va à Deauville, on va en Israël, on va à l'hôtel. Pour ça, on ne remarque pas, en fait, qu'on n'a jamais vraiment travaillé. Si on avait travaillé ensemble, qu'est-ce qu'on attend de la fête? On aurait peut-être pu rester à la maison, sans dépenses, sans rien, et réfléchi. Mais c'est 3 jours de fête, qu'est-ce que je veux faire avec les enfants, etc. Alors le mari prend les enfants à la choule, c'est le babysitter.
C'est comme un échappatoire.
Comment? C'est un échappatoire.
Finalement, c'est toujours, on va dire, une
combine.
Une combine, voilà.
Voilà, bien sûr, parce qu'on n'a jamais vraiment... Exactement.
Parce qu'on a 3 jours de fête, 4 jours de fête, et c'est long.
Bien sûr, on n'a jamais vraiment défini ensemble. Mais si on définit ensemble, on peut faire des belles choses, peut-être. Peut-être qu'il peut y avoir un sujet qui va être le fil conducteur de cette fête. On peut parler de la Romemouta Torah à Shavuot, par exemple. Ça peut être intéressant, Romemouta Torah. Et là, les enfants, ils ont peut-être une place en préparant un beau dessin avant Yom Tov, en préparant un petit Dvar Torah. Peut-être qu'il y a un plat, chaque repas, il y a un autre plat. Et ça de la femme, mais pas juste... Je sais pas, je veux pas donner d'exemple, c'est pas le but. C'est juste pour un peu... Voilà, juste pour un peu simplifier, pour qu'on puisse palper la chose. Après, c'est chacun, après sa vision, et sa famille, et sa femme, et ses enfants, etc. Mais qu'il y ait quelque chose, de travailler ensemble. Ça donne beaucoup de satisfaction au couple. Ça permet d'éviter après les écueils qui surgissent. Elle est fatiguée, elle prend problème. Par exemple, le mari, il aura toujours un moment où il pourra se reposer pendant le Shabbat. Est-ce que la femme aura un moment où elle peut se reposer? Pas forcément. Est-ce que c'est logique, ça? Je sais pas, c'est logique. Le mari, vendredi après-midi, il est revenu au travail, il est parti dormir. La femme, elle a... Comment?
Des fois, non.
Des fois, non. Mais admettons. Et après, donc elle a enchaîné la femme toute la journée, le soir, tard, etc. Et après, le lendemain, lui, il va à la tefila, c'est un repos, finalement. Il va à la tefila, il fait qu'il douche, là-bas, à la choule, ils font un petit chiour, comme ça, pendant une demi-heure, une heure. Il a mangé, il est rassasié. Sa femme, elle a préparé un repas de Shabbat. Lui, il veut dormir. Donc, il va faire une demi-heure de repas, trois quarts d'heure. Et après, il va dormir. Et la femme, avec les enfants, et après, elle va au parc. Et après, c'est... J'exagère un peu, je caricature un petit peu. Pour dire que... Il est frustré, mais est-ce qu'il a réalisé sa femme, comment elle vit les choses? Il est frustré comme plein d'hommes. Au dernier instant, quand à 5h l'après-midi, il s'ennuie, il va aller se promener avec sa femme, elle dit non, mais les enfants doivent aller dormir dans une heure, ils ne peuvent pas rester jusqu'au soir, etc. Mais est-ce qu'il a réalisé qu'elle a peut-être beaucoup sur le cœur? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment réfléchi ensemble. Quel est le rôle du mari dans la famille pour Shabbat? Shabbat, c'est un exemple. C'est-à-dire des moments, mais Shabbat, c'est. Bon, Hachem, mais Shabbat, fait que toutes les semaines, on a ce Shabbat-là. Mais on est en famille, et là, il faut. Savoir quel est le rôle de chacun. Pendant les vacances aussi, c'est la question. Pendant l'année, bon, il y a le rythme scolaire, il y a le rythme du travail du mari. Pendant les vacances, il n'y a plus ce rythme-là. Alors pourquoi la femme, quand on comprend à ce moment-là, pourquoi le mari, tous les soirs, un jour il va au bowling, et un jour il est sur son écran, et un jour il a son chiot. Et là, pourquoi à ce moment-là, il n'est pas cachour un petit peu à mettre les enfants au lit?
C'est pas son job, en fait.
C'est pas son job. C'est vrai que c'est pas son job, mais alors. Mais s'il a un petit peu de considération pour sa femme, au moins, de temps en temps, il essaye de participer pour au moins la comprendre, ce qu'elle traverse. Pour au moins comprendre ce que c'est. S'il ne peut pas pendant l'année scolaire, ou il ne peut pas pendant l'année de travail, pendant quelques semaines où il est en vacances, pendant Pessah, pendant Chol Hamoed, lui, il s'est bien amusé avec les enfants, il les a pris au parc, etc. Après, elle se débrouille pour les douches, et lui, il sort de la maison. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'elle ne comprend pas à ce moment-là si c'est vraiment important pour le mari. C'est vraiment important pour toi. Si maintenant, de toute façon, tu dis je veux passer du temps en famille, alors pourquoi les choses où j'ai besoin de toi, en fait, j'ai pas présent? C'est ça la question. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de communication dans ce couple-là. Pour savoir qu'est-ce que la femme attend, qu'est-ce que le mari attend. Non?
Ce que vous dites. Ouais.
Bon, alors là, c'était des choses importantes. Mais qu'est-ce qu'on peut encore voir? Quels sont les sujets que vous aimeriez traiter? À part la mitzvah Ona Bezrat Hashem, ou la prochaine fois, ou seulement le dernier cours, on verra. Quels sont les sujets que...
Peut-être une remarque, peut-être, je ne sais pas si ouais. Ça peut clôturer ou donner une autre mm-hmm. ouverture, c'est que souvent je me pose la question quand est-ce qu'il faut faire une remarque, quand est-ce qu'il faut ne pas la faire.
Mm-hmm.
Et avec le temps, je me suis dit que pour savoir si on fait ou pas, il faut se poser la question à... quel est le niveau du préjudice si on la fait pas? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que vraiment on a besoin de la faire? Est-ce qu'on peut prendre sur nous? Est-ce qu'on peut être mévater? Et pour avoir assisté à pas mal de shiurim, notamment de Rav Dreyfus,
mm-hmm.
et ben lui, il est de ceux qui disent tant que vous pouvez supporter, ne dites rien.
Ça, je regarde. Chaque fois quand on dit au nom de quelqu'un, il y a une phrase du Khatam Sofer, il disait ça. Je veux bien qu'on le dise.
Ouais.
Pas en mon nom mes chidushim, que la personne s'approprie mes chidushim, mais je veux pas qu'on dise en mon nom les chidushim de la personne. Donc je dis voilà, je ne sais pas ce que Rav Dreyfus dit. Je ne sais pas s'il dit ce que tu dis. C'est ce que tu as compris peut-être de Rav Dreyfus.
Il l'a répété un milliard de fois. Hein.
Oui, je comprends, mais il faut comprendre parce que Rav Dreyfus n'est pas cholek avec la Torah. Dans la Torah, c'est écrit. On va finir par ça. Je vais expliquer juste ce que j'ai dit. C'est important de partager. La question, c'est comment partager notre ressenti, etc. C'est pas une invention personnelle et c'est pas une approche de Shalom Bayit. C'est une mitzvah de la Torah. C'est écrit dans la Torah, Ochéach tochéach et amiticha velo tissa à la frette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ochéach tochéach? On a l'habitude de traduire, fais un reproche à ton ami, à ton prochain quand tu vois qu'il fait une avéra, il prend la voiture Shabbat ou je ne sais quoi. c'est une dracha de nos sages. C'est une dracha dans la Gemara, dans la Mishnah, etc. C'est une halakha, une mitzvah de la Torah. Mais c'est une dracha. Le pshat, c'est pas ça. Le pshat, dit le Rambam, dit le Ramban, dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, tous les grands commentaires des Rishonim et des Acharonim, le Ktav et Kabbalah, tous les grands Rishonim Acharonim disent c'est pas le pshat pashut. Le pshat pashut, enfin certains disent que c'est aussi le pshat, mais les grands Rishonim disent c'est le pshat. Le Ramban dit le vrai pshat, c'est quoi? C'est que, parce que là, il faut voir le contexte là-bas, dans la paracha, où c'est écrit Lotikom velotitor et bnei amecha, ochiach tochiach et imetecha velotisa la fret, etc. Veafta le reacha kamocha. Ne déteste pas, ne garde pas rancune. Lotisna et achevra, ne garde pas dans ton cœur. Ne haïs pas ton prochain dans ton cœur. Fais le reproche, fais la remarque à ton prochain, d'une façon délicate, de lotisa la fret, etc. Et puis finalement, veafta le reacha kamocha. Dit le Ramban, le mot ochiach, il vient du même mot. Même racine que Vochiach Avram et Avimelech. Avram, il a fait une remontrance à Avimelech. C'est quoi? Quand Avimelech, c'est Avadim, ils avaient piqué les puits de Avimelech, de Avram. Et puis, Avram, il a fait un reproche. C'est pas un reproche parce que les Avadim de Avimelech, ils ont fait le issur de Gezel. C'est un reproche parce que je suis pas d'accord. Ça m'appartient, ces puits-là, je suis pas d'accord. N'est-ce pas? C'est ça, Vochiach. Vochiach et Durman, c'est birour dvarim. C'est mettre les choses sur la table, ne pas laisser des non-dits qui explosent après. Le Ramban, il dit, vous allez regarder Bezrat Hashem après le Ramban et le Ramban Ilchot Deot, etc. Le Mash d'Alachot Psukot et Pshutot, Pirusha Pasuk, ne pas garder, il dit le Ramban, l'Otistat Rabbi Vafra, c'est dans son cœur qu'on a le droit de détester. Et si tu gardes dans ton cœur, après ça, tu arrives à l'Otikam Velotitor et à Sina, etc. Alors que si tu dis les choses gentiment, il dit le Ramban, tu dis, tu sais, ça m'a un peu dérangé. Pas dans un monde de colère, comme tu dis, pas comme ça à chaud, mais plus calmement, etc. Tu viens, tu dis, regarde, j'ai ressenti telle et telle chose. Après, c'est un art, comment faire. Comment dire les choses? Est-ce qu'on a essayé un peu de voir ensemble? Un petit peu. C'est tout un art à apprendre. Et je vous donne un conseil de lire, par exemple, le livre de Rav Simcha Cohen qui donne des techniques. C'est un exemple. Mais il existe en français, donc ça peut être. Maintenant, il a même sorti au Hachem un livre pour les Madrichim. C'est bien ça. Plus poussé pour expliquer la Mitatona et d'autres choses. Mais déjà, la base qu'il propose pour l'échange, pour le dialogue, pour les reproches, pour la gestion de l'argent, pour la gestion du temps, pour les rôles de chacun, etc., c'est un livre technique même. Mais cette technique, elle est importante. Aussi technique, mais la technique aussi, c'est important. Quand on a les bonnes bases, après, il faut savoir comment les mettre en application. Mais en tout cas, ça, c'est important. Ne pas garder dans son cœur parce que ça ne marche pas. C'est sûr qu'il faut un petit peu prendre pour soi. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout dire à tort et à travers et à tout bout de champ parce que c'est insupportable après pour l'épouse. Mais c'est la même chose dans le travail. Moi, je dis. Chaque fois, je dis. Encore aujourd'hui, j'ai dit ce que je pense. On avait une réunion, etc. J'ai dit ce que je pense. C'est pas bon de ne pas dire ce qu'on pense. Ça sert à rien. On est frustré et l'autre ne sait pas ce qu'on attend. Il y a des gens à qui c'est plus dur de dire. Il y a quelqu'un qui est très très susceptible, mais j'ai plus de mal à lui dire. Parce qu'il se vexe, malheureusement. Même si tu dis avec toute la forme, etc., bon, c'est compliqué. Mais ça ne m'empêche pas que je dois dire. Parce que si je dis pas, ça va exploser. Bon, mais il faut faire attention. Maintenant, comme on a dit avant, si le terrain il est sensible, ah, il faut faire très attention. Une fois un ongle incarné. Alors ça, c'était très douloureux quand le médecin, il devait même faire une anesthésie locale, je crois, pour pouvoir. C'était très douloureux. Et après, il fallait enlever le scotch, c'était un genre de sparadrap, il fallait l'enlever le lendemain soir ou je sais pas quoi. C'était une douleur terrible. Donc c'est un terrain très très sensible. Alors là, il faut prendre avec des pincettes. Tu viens comme ça, tu vas tout casser. Mais si, Baruch HaShem, on a pu bien assainir les choses, et un des moyens d'assainir, c'est d'en parler. Mais si c'est pas encore le moment, pour certains, dans ce cas-là, ils doivent passer d'abord par beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect de l'emploi du temps de la femme pour Bezrat Hashem pouvoir par la suite aller plus avant. Bon.
C'est quoi le pshat alors?
Le pshat, il dit le Ramban, ochiach tochiach, excusez-moi, j'étais pas été clair, c'est de parler à son prochain des choses qui nous dérangent, qui nous ont un peu déçus, comme par exemple, il nous a pris notre place dans au magasin, ou alors il a dit un mot de travers, il nous a un peu lésé. Non, c'est pas ne pas être mévataire.
Tu peux être mévataire, mais il faut le dire.
Mais il faut, c'est dire à l'autre, en fait, ce qui nous a dérangé, parce qu'il ne peut pas deviner, il ne peut pas savoir combien ça nous a touché. Comment? Non, il ne devine pas. Je donne un exemple. Je vais finir par cet exemple. Quand j'étais à l'Eshiva, il y avait des garçons qui ouvraient le Sefer pour prendre la place pour le Shiur. Après le Seder du soir à 11h, à 11h15, il y avait un Shiur. Moi, je descendais vers 11h15, pour ne pas perdre de temps, les moudes. J'arrivais, il n'y avait plus de place. Parce qu'à 11h, ils fermaient leur Gemara et Midrash, ils allaient manger. Mais avant d'aller manger, ils ouvraient d'abord leur Sefer.
Pour garder la place.
Pour garder leur place. J'arrivais, j'avais plus de place. Je ne comprenais pas pourquoi ça devait être comme ça. Si tu veux arriver à l'heure, arrive à l'heure. Mais tu peux arriver à 11h20, mais j'ai plus de place parce que toi, tu. C'est pas logique. C'est un exemple. Mais si je dis rien, est-ce que l'autre devine? Impossible. Mais ça m'énerve, je suis frustré. Après, j'explose. Là, c'était un exemple qui, c'est pas un très bon exemple parce que tout le monde fait, beaucoup faisait ça. Donc, je vais pas aller chez chacun. C'est, tant pis, il faut faire un choix. Soit je descends plus tôt.
Je fais pareil qu'eux.
Comment ? Non, faire pareil qu'eux, je comptais pas faire. Ça me dérange juste. Ça me dérangeait pour différentes raisons. C'était pas mon approche. C'était pas ma vision de la vie. Mais l'idéal, c'est de descendre à 11h10. Et tant pis, étudier à 11h10 là-bas quand il y a encore des places, 11h05. Mais pas de garder dans mon cœur. Ça, c'est pas un très bon exemple parce que je vais pas aller chez tout le monde et refaire le monde. C'est pas le but. Mais quand c'est avec mon épouse, si c'est quelqu'un. Vraiment, je tiens le kécher avec lui, je tiens vraiment à ce kécher, je suis obligé de le dire. Si je tiens au kécher avec la personne, il faut que je lui en parle. Mais il faut que j'en parle d'une bonne façon, que j'apprenne comment parler. Et avoir un bon terrain d'entente avant. Bien abreuvé, bien sain, sain. Si j'en parle pas, c'est comme tu avais dit avant, c'est que ça m'intéresse pas, ça me dérange pas qu'il y ait un fossé entre nous, l'OAL et nous. Si ça m'apporte, je suis obligé d'en parler. Et savoir comment en parler. Et raconter comment, voilà, je suis sensible au bruit par exemple, donc si quelqu'un parle à côté, etc. Je sais pas, c'est. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que chacun ses détails, mais être capable d'en parler, c'est une force. Ne pas être gaffe-tan et se dire que ce n'est pas mon cas d'en parler. Parce que de toute façon, en fait, ça te dérange à l'intérieur. Donc pourquoi ruminer ça ? Autant en parler gentiment. Mais comme on l'a dit avant, pas faire un reproche sur l'autre, mais dire ce que moi j'ai ressenti. Et comment ça aurait été plus simple pour moi ? Bon, c'est Bezrat Hashem, il ne faut pas. Encore une fois, comme j'ai dit l'autre fois, j'assume pas si quelqu'un prend ça et va comme un bulldozer, c'est pas mon problème. Voilà. Bon, très d'accord, Bezrat Hashem, que ce soit. C'est quoi le choix, Kazakh?